Voix du Partage, une émission de Radio Grand Ciel avec la participation de bénévoles du foyer d'accueil Chartrain, association d'insertion par le logement et le travail. Chaque semaine, Voix du Partage accueille des témoins du lien social et du vivre ensemble en Eure-et-Loire. Bonjour chers auditeurs de Radio Grand Ciel, aujourd'hui avec vous Martine Carnis pour le foyer d'accueil Chartrain. Bienvenue dans cette émission de Voix du Partage, la première d'une série de 3 émissions qui seront consacrées à l'ADSEA 28, dont va nous parler Christian Patin, son directeur général. Alors bonjour Christian.
Bonjour Martine.
Alors Christian, avant de nous dire qui tu es et aussi de nous dire quelles sont tes fonctions dans cette association, voudrais-tu d'abord nous traduire le sigle ADSEA 28 ?
Bien sûr, c'est un sigle qui ne veut pas dire grand-chose, mais qui veut dire Association départementale de la sauvegarde de l'enfance à l'adulte d'Eure-et-Loire, donc 28. Pour notre rayon d'action.
Bien, merci beaucoup pour cette traduction. Et alors, te concernant, est-ce que tu peux nous expliquer, nous donner en quelques mots, ton parcours et ta fonction actuelle ?
Je suis actuellement directeur général de cette association ADSEA 28 et j'étais avant directeur au foyer d'accueil Chartrain et encore un peu auparavant, j'ai passé 8 ans à diriger un établissement de l'association ADAPI 28, donc je dirigeais un établissement d'aide par le travail. Il s'agit donc de missions associatives que j'ai fait en alternance avec des missions dans le secteur économique marchand.
D'accord. Donc, des missions différentes de celles de l'établissement où tu travailles actuellement. Alors, je pense que c'est le moment de faire un peu d'histoire et de nous dire quand est née cette association importante, aussi bien par ses missions que importante par des chiffres, tant en ce qui concerne les jeunes accompagnés par la DSEA 28 qu'en ce qui concerne le nombre de salariés. Alors un petit peu d'histoire maintenant.
Oui, merci. Donc même si je ne suis là que depuis 15 mois, je vais quand même essayer d'être fidèle à l'histoire d'une association historique sur le département d'Eure-et-Loire, puisqu'il s'agit d'une association qui va avoir 100 ans cette année, en 2018. Nous sommes nés à l'issue de la guerre, en novembre 1918, et donc nous avons eu une histoire de développement de cette association jusqu'à aujourd'hui, où nous sommes 205 salariés, majoritairement des femmes, 141 femmes pour 64 hommes, et nous nous occupons sur l'année 2016, par exemple, de 3084 enfants, donc environ 3000 enfants par an. Voilà, notre secteur d'activité, c'est centré sur la protection de l'enfance.
Donc protection des mineurs et des jeunes majeurs.
Hein ? Tout à fait.
Donc, qu'est-ce qui justifie sa naissance à cette association après la guerre ?
Oh ben essentiellement, un certain nombre d'enfants qui se retrouvaient orphelins. Et je dirais qu'en fait, cette association a vécu une première partie, une quinzaine d'années, puis a été relativement en sommeil et a été réactivée en fait en 1942, sous l'impulsion notamment de quelqu'un qui est connu sur Chartres qui s'appelait Marc Nivet et qui restait 37 ans à la tête d'un certain nombre de ces établissements. C'était donc le premier directeur général de l'association. Je suis, moi, le septième, donc directeur général. Et il y a eu, depuis l'origine de l'association, 14 présidents, l'actuel président étant Michel Charpentier, qui est aussi maire de Fontenay-sur-Eure.
D'accord. Merci pour ce rappel. Alors, je crois que l'association a eu une nouvelle naissance après la Seconde Guerre mondiale, un peu parallèlement au développement de la loi de l'ordre. C'est une ordonnance ou une loi, je ne sais plus, sur la protection des mineurs.
L'ordonnance du 2 février 45 relative effectivement à l'enfance délinquante qui fonde donc les actions notamment judiciaires pour protéger et accompagner la jeunesse. Mais en fait, ce que je voudrais peut-être dire, c'est que c'est peut-être à partir partir de la déclaration des droits de l'enfant de novembre 1959 que vraiment commence à se mettre en place des dispositifs pour protéger les enfants. Et éventuellement, si vous voulez, j'ai quelques petits extraits de cette déclaration des droits de l'enfant de 1959 qui insiste sur le fait que les droits reconnus par cette déclaration des droits de l'enfant, qui est une déclaration internationale, doivent être reconnus à tous les enfants sans exception aucune et sans distinction ou discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue ou la religion, les opinions politiques ou autres. Et donc c'est à partir de là qu'on commence à voir apparaître ce qu'on appelle l'intérêt supérieur de l'enfant, qui doit être la considération déterminante pour l'action auprès des enfants et des jeunes.
Et donc la mise en place d'actions et de services pour mener à bien cette protection. Parce que là, absolument. Quel est le danger, quels sont les dangers dont on doit protéger ces enfants et ces mineurs ?
Mais, malheureusement, c'est relativement peu connu, mais un certain nombre de dangers émanent de la cellule familiale elle-même, avec un certain nombre de parents qui sont dans l'incapacité d'élever convenablement leurs enfants. Et donc, bien entendu, il y a aussi un certain nombre d'autres dangers, mais celui-ci me paraît important à signaler parce qu'il est peut-être relativement peu connu. Et c'est vrai que le champ de la protection de l'enfance n'est pas un champ très médiatisé, mais nous avons un certain nombre d'associations qui œuvrent dans ce domaine.
D'accord. Bon, alors, nous, puisque on a évoqué les services et les actions qui sont mises en place, est-ce que l'on peut rappeler les schématiquement cette fois, puisqu'on y reviendra en détail, comment est organisé cet établissement de la DSEA 28 et quels sont ses lieux d'exercice ?
Oui, bien sûr. Donc, en effet, nous sommes organisés sur deux grands axes d'action qui ont été mis en place au fil du temps. D'une part, les structures qui permettent l'hébergement d'enfants qui, sur des mesures judiciaires, peuvent être donc placés en internat éducatif ou placés en famille d'accueil. Et puis, nous avons tout un tas de services qui œuvrent plutôt aux côtés des familles sur le lieu de vie des enfants. Ce sont les services d'accompagnement en milieu ouvert, des services de prévention spécialisés dans les quartiers en difficulté, et puis des services d'accompagnement et d'aide aux jeunes majeurs que nous avons développés au fil du temps.
Mais qui, où se trouvent ces services en Alors, à quel endroit peut-on les voir ? Où se trouvent-ils ?
Nous avons un certain nombre d'implantations. Le siège de l'association se trouve depuis des années 35 Avenue de la Paix à Lèves, sur le site assez magnifique d'ailleurs, d'une propriété de la CAF, de la Caisse d'allocation familiale, donc avec quelques services qui y résident. Mais le plus important, c'est de savoir que nous avons nos internats éducatifs sur l'agglomération chartraine sur trois endroits. D'une part, rue de Fresnay dans le quartier de Rochèvre, d'autre part, une maison de ville du côté de la gare, rue Nicole, et enfin, sur ce site dont je parlais à l'instant, rue de la Chacatière à Lèves, pour notamment actuellement l'accueil des ce qu'on appelle les mineurs non accompagnés, c'est-à-dire ce sont des mineurs étrangers isolés.
Voilà. Alors, je crois aussi que vous avez quelque chose à Châteaudun et à Dreux, non ?
Alors, nous avons un certain nombre de services qui se déplacent effectivement sur tout le département d'Eure-et-Loire. En fait, actuellement, nous avons une implantation importante à Dreux que nous venons d'ouvrir puisqu'on avait besoin d'agrandir nos locaux. Donc ça se situe 2 avenue des Battes à Dreux. Et nous avons reconfiguré l'ensemble des services en milieu ouvert de Dreux sur ce site, avec aussi la possibilité de faire de la médiation familiale sur ce site. Et nous avons aussi, pour être complet, une implantation rue de Voves à Chartres qui accueille, donc c'est le centre de l'accueil familial et qui notamment permet d'organiser un espace de rencontre parents-enfants et la médiation familiale. Et, Et puis nous avons aussi quand même une implantation importante boulevard Clémenceau, juste à la porte Guillaume, où là nous exerçons toutes les mesures pour les jeunes majeurs. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour.
Donc un rayonnement départemental.
Tout à fait.
Sachant que votre interlocuteur principal dans cette mission de protection de l'enfance, c'est le département, sauf erreur.
En effet, 90% de financement de nos différents établissements et services proviennent de l'action sociale du conseil départemental, de l'aide sociale à l'enfance qui effectivement nous habilite sur l'ensemble de nos actions. L'autre partie marginale, enfin moins importante, c'est d'une part la CAF, la Caisse d'allocations familiales, et d'autre part la cohésion sociale aussi, dans tout ce qui est accueil.
L'État,
donc, oui.
Pour les mineurs.
Pour surtout les dispositifs de jeunes majeurs et pour ce qui est du pôle mandataire.
Donc, ah oui, d'accord. Voilà. Donc, j'imagine que compte tenu du nombre d'enfants et de jeunes gens concernés, il faut évaluer les besoins, il faut prévoir quels sont les besoins. Et il existe pour ça, je crois, une instance qui permet de les évaluer, ces besoins, qui est assez récente d'ailleurs. Je crois aussi qu'on pourra évoquer un numéro d'appel, puisqu'on a parlé du danger concernant les jeunes mineurs et majeurs. Pourra parler d'un numéro d'appel en cas d'urgence.
Alors effectivement, il y a d'une part un numéro d'appel national qui est le 119 et qui permet effectivement de recenser l'ensemble des situations d'enfants en danger et qui permet aux appelants d'avoir des écoutants qui peuvent les renseigner. À titre d'exemple, en 2016, 33 000 appels ont permis de protéger des enfants sur 470 000 appels reçus. Ça vous donne un peu l'ampleur du phénomène. Ensuite, sur un plan départemental, chaque aide sociale à l'enfance met en place ce qu'on appelle une CRIP, une cellule de recueil des informations préoccupante. Le numéro de téléphone, par exemple, je peux le donner, c'est le 02 37 20 13 20 qui permet à toute situation d'enfant en danger d'être signalée au département d'Eure-et-Loire.
D'accord, merci bien pour cette information pratique qui est extrêmement importante et qui est souvent ignorée du grand public.
Absolument.
Cet observatoire départemental est relié à la CRIP, alors ?
Oui, alors, l'Observatoire départemental de la protection de l'enfance est effectivement né en 2014. C'est une conséquence des différentes lois de la protection de l'enfance qui a instauré dans tous les départements de France un observatoire départemental. La DSEA participe activement au développement de ces travaux. Et cet observatoire départemental a pour responsabilité, sous la présidence du président du conseil départemental, de mettre en place effectivement tout le dispositif de schéma départemental de la protection de l'enfance qui organise l'ensemble des établissements et services sous la responsabilité du conseil départemental et dont une partie est déléguée au secteur associatif habilité.
Bon, ben je vous remercie de toutes ces informations et nous arrivons au terme de notre émission. Mais nous avons encore 2 semaines au cours desquelles nous pourrons en apprendre plus en détail sur ces services que vous avez évoqués jusqu'à maintenant. Voulez-vous ajouter quelque chose ?
Non, je pense que effectivement, je serai content de pouvoir détailler un petit peu plus les semaines prochaines les différents établissements et services de la DSEA.
Merci à vous Christian Patin et je signale aux auditeurs qu'ils peuvent réécouter cette émission sur le site de Radio Grand Ciel. Au revoir.
Au revoir. Boogie. We love to boogie on a Saturday night.